Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est le journal Théo Manval.
Demain, par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Touche ou pas touche à l'âge pivot, c'est tout l'enjeu des heures à venir. Les syndicats réformistes ont senti une volonté d'ouverture chez le Premier ministre aujourd'hui, mais ils disent attendre des actes. Ce sera peut-être dans ces propositions promises pour demain. Analyse dès le début de ce journal. La CGT et FO maintiennent en tout cas leur appel à manifester demain également. Le système par points est dangereux, Martha-Lise Verrier, vous l'entendrez. Dans ce journal également, Emmanuel Macron qui souhaite un référendum sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les enquêteurs ukrainiens qui ont eu accès aux boîtes noires de leur Boeing 737 crashé en Iran. Belle-Île-en-Mer, parmi les 50 lieux à visiter absolument en 2020, recommandé par le New York Times.
Nos espaces naturels, la nature sauvage de Belle-Île-en-Mer. Il y a une atmosphère sur l'île qui évoque le rêve, la poésie, la tranquillité.
Et puis, actu sportive chargée ce soir avec les Bleus du volley qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ceux du hand qui chutent d'entrée à l'Euro. Et le début de la 20e journée en Ligue 1 de football. Rennes-Marseille, Stéphane Beignet.
5 minutes en seconde période, toujours 0 à 0 entre les Bretons et les Marseillais, alors qu'en première période, à la 29e, une frappe d'Alvaro pour les Marseillais a été touchée. Le montant de Mendy, toujours 0-0.
Merci Stéphane, on vous retrouve dans un quart d'heure à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil, Christophe Catoire, dirigeant d'Adeco. On va parler formation, avant bien sûr la bourse et vos prévisions météo avec Anissa.
Europe 1.
Y a-t-il un début d'ouverture? Les syndicats qui se sont succédés toute la journée dans son bureau l'avaient laissé entendre à la sortie, en tout cas les réformistes, hein, UNSA, CFDT. Eh bien, le Premier ministre Édouard Philippe confirme ce soir des avancées dans les discussions sur le projet de loi sur les retraites. Rien n'est encore gravé dans le marbre, mais la journée de demain pourrait être décisive.
Je dirais que ce soir, nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir. C'est donc une journée utile. Mais il nous reste du travail. Dès ce soir, je vais rencontrer le président de la République et prendre contact avec un certain nombre de responsables de la majorité pour évoquer les avancées possibles. Et demain, par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Édouard Philippe, ce soir à sa sortie de Matignon, Adrien Beck, que faut-il retenir de sa courte allocution? Est-ce qu'on tient au moins le début d'une possible sortie de crise?
Eh bien alors, avec les syndicats réformistes CFDT UNSA, peut-être on sent que la pression redescend d'un cran. Ce soir, Édouard Philippe, plutôt souriant d'ailleurs, laisse clairement entendre qu'un compromis rapide est possible autour de cette conférence de financement du système de retraite. C'était une proposition de Laurent Berger pour maintenir l'équilibre financier du régime sans passer par le fameux âge pivot. Demain, le Premier ministre va donc faire, on vient de l'entendre, des propositions aux syndicats sur les objectifs et les modalités de cette conférence. On notera toutefois qu'Édouard Philippe n'a pas évoqué le sujet, le totem de l'âge pivot, mais c'est pourtant bien là le cœur du sujet. Si cet âge pivot est sacrifié, par quoi le remplacer? Ce sera sans doute l'un des enjeux de sa rencontre ce soir avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre, qui on l'a entendu aussi, s'entretiendra avec des responsables de la majorité, dont on sait que beaucoup sont pour un retrait de cette mesure.
Merci beaucoup Adrien Beck du service politique d'Europe 1. En tout cas, pendant ces discussions, la mobilisation a continué toute cette journée. Opération coup de poing des cheminots à Marseille. Ils ont brièvement envahi les voies et interrompu le trafic à la gare Saint-Charles. Le port du Havre a lui aussi été bloqué. Les avocats ont une nouvelle fois jeté au sol symboliquement leur robe noire au palais de justice de Paris. Et demain, de nouvelles manifestations sont prévues à l'appel de l'intersyndicale CGT et Force ouvrière notamment. Notamment pour Yves Verrier, secrétaire général FO. Pas question de désarmer, même après donc ces propos d'Edouard Philippe.
La mobilisation est maintenue. Nous avons lancé un appel avec l'intersyndicale qui représente bien plus que les deux syndicats favorables au régime unique par points. Et je peux vous dire encore une fois que nous sommes déterminés parce que nous sommes convaincus que ce projet est dangereux pour les retraites à l'avenir.
Donc
pour nos enfants, nos petits-enfants.
Vous ne voyez pas de sortie de crise.
Encore une fois, s'il n'y a plus d'âge pivot, ce sera moins violent immédiatement. Eh bien, ce sera toujours ça de éviter. Mais pour autant, le projet de régime unique par points ne nous convient pas.
La détermination d'Yves Verrier, secrétaire général Force Ouvrière, dans votre grand journal du soir tout à l'heure avec Nathalie Lévy. Pour ce week-end, comptez à la SNCF 80% des TGV, 50% des TER et 40% des Transiliens et Intercités. Par ailleurs, un nouveau secteur va faire son entrée dans le mouvement. À partir de lundi, la CGT de la Banque de France annonce le blocage de deux sites en Seine-Saint-Denis et dans le Nord. Des sites qui traitent plus d'un quart des billets en circulation dans le pays. L'approvisionnement des distributeurs pourrait en être perturbé. Enfin, après la diffusion d'une vidéo qui montrait un policier tiré, semble-t-il, à bout portant avec son LBD sur un manifestant hier dans le cortège à Paris, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire par une personne dépositaire de l'autorité publique. La vidéo est parcellaire, répond la préfecture de police qui rappelle qu'elle a eu lieu au moment de violents affrontements.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
22h06 sur Europe 1. Emmanuel Macron souhaite organiser un référendum sur certaines des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Vous le savez, c'est 150 Français qui planchent depuis 4 mois maintenant sur des idées pour adapter notre politique environnementale et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Objectif moins 40% en 2030 par rapport à 1990. Ils avaient convoqué ces Français en quelque sorte le chef de l'État pour lui demander comment il comptait tenir compte de leur travail. Emmanuel Macron s'est déplacé devant eux ce soir. Écoutez sa réponse.
Ce que moi j'entends faire, c'est venir vous dire, les yeux dans les yeux, ce que j'en ferai. Si ce sont des textes de loi qui peuvent passer comme tels, je suis tout à fait prêt à les soumettre à référendum, in texto. Si on a une série de questions dont on pense qu'il faut les soumettre sans filtre à nos citoyens, je suis prêt à initier une démarche de référendum, si je puis dire, indicatif. Mais je suis tout de suite clair avec vous sur le fait que même si les gens auront répondu oui sur une de vos propositions, ça ne sera pas d'application directe parce qu'il faudra une loi derrière du Parlement. Et ensuite, il faut qu'on construise ensemble la méthode de travail par rapport à la Convention, parce que vous vous êtes engagé, vous voulez de la transparence, ou en quelque sorte, les processus législatifs ou réglementaires qu'il y aura derrière vos propositions puissent faire l'objet d'interactions avec vous et rester dans un échange transparent.
Emmanuel Macron ce soir devant les 150 citoyens de la Convention sur le climat, propos recueillis par Claudia Bertram. Et plus tôt dans la journée, les associations de défense de l'environnement ont alpagué. Emmanuel Macron dénonçait, je cite, « le grand écart entre les petits pas du gouvernement pour la planète et les grands discours du chef de l'État ». Même cri de colère contre les dirigeants politiques à 17 000 km de là. Plusieurs milliers d'Australiens ont manifesté aujourd'hui à Sydney et à Melbourne pour demander eux aussi à leur gouvernement d'en faire beaucoup plus contre le réchauffement climatique. Le Premier ministre conservateur est au centre des critiques pour son inaction avec les incendies monstres qui ne cessent de progresser. Aujourd'hui, les vents ont encore attisé les flammes et fait fusionner deux immenses brasiers. Ce nouveau foyer fait plus de 50 fois la taille de Paris. À l'étranger toujours, le mystère est peut-être en passe de se lever autour du crash d'un avion de ligne ukrainien mercredi près de Téhéran. Touché ou pas par un missile iranien, Téhéran continue de nier. Mais les familles des 176 victimes auront peut-être un jour la vérité, Rémi Bossaron, car les enquêteurs ukrainiens ont eu accès aujourd'hui aux boîtes noires. Et cette thèse d'un tir en provenance de l'Iran est de plus en plus appuyée par les renseignements occidentaux.
Oui, et cette fois, c'est Washington qui officiellement privilégie cette thèse. Il est probable que l'avion a été abattu par un missile iranien. Déclaration du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, il y a quelques instants. Les États-Unis se rangent donc aux côtés du Canada, du Royaume-Uni, mais aussi des Pays-Bas qui avaient tous déjà accusé un peu plus tôt la défense anti-aérienne iranienne. C'est la thèse d'un tir accidentel qui est privilégiée. Il faut rappeler que l'Iran était, au moment du crash mercredi, dans l'attente d'une riposte américaine, ce qui pourrait expliquer la nervosité de ses forces armées. Mais ce scénario d'un tir de missile est toujours fermement démenti par Téhéran. L'Iran a proposé à Boeing, mais aussi aux enquêteurs canadiens et ukrainiens, de participer à l'enquête. Des experts ukrainiens sont déjà sur place et ils ont eu accès aux boîtes noires. Avancée donc significative pour cette enquête, à l'issue de laquelle les États-Unis promettent déjà de prendre, avec le reste du monde, des mesures appropriées.
Rémi Bostsaran, et ça ne traîne pas. Washington annonce déjà ce soir de nouvelles sanctions contre 8 hauts responsables du régime iranien. Donald Trump assure aussi que les G20 général iranien abattu, Qassem Soleimani, visait 4 ambassades pour de futures attaques, ce qui a justifié son élimination, selon le président américain. Donald Trump qui essuie ce soir une nouvelle étape dans la procédure d'impeachment. La présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis donne son feu vert à l'envoi de l'acte d'accusation contre le président au Sénat. Ce sera fait la semaine prochaine. La procédure qui n'a, on le rappelle, quasiment aucune chance d'aboutir à la Chambre haute.
Europe 1. Théo Manval.
22h passées de 10 minutes sur Europe 1. Au moins 126 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France l'année dernière. 126 féminicides, des comptes réalisés par l'agence France Presse et publiés ce soir. C'est un nombre en hausse par rapport aux 118 de l'année 2018. Le gouvernement doit annoncer des mesures supplémentaires dans les prochains mois. Une bonne nouvelle pour l'emploi. Amazon implante un nouveau centre logistique à Senlis dans l'Oise. Le géant du commerce en ligne va embaucher 500 personnes. Il commencera ses activités au mois de mai. Ce sera le 23e site de la firme américaine en France. Tout autre chose, à présent, Belle-Île-en-Mer dans les pages du New York Times et pas n'importe lesquelles. Parmi les 52 lieux à découvrir d'urgence, selon le classement annuel du prestigieux quotidien américain, Belle-Île, écrit le New York Times, est l'une des destinations les plus vertes et les plus vierges de France. De quoi évidemment enorgueillir le maire du Palais, le port où accostent les bateaux en provenance de Quiberon, même s'il tient à préserver son île.
On a été ravi de constater qu'effectivement, on avait pu être parmi les deux destinations françaises à visiter parmi les 50 dans le monde, selon le New York Times. Donc c'était plutôt quelque chose de gratifiant, mais très surprenant. Mais en tout cas, on a appris cette nouvelle avec beaucoup de bonheur.
À votre avis, qu'est-ce qui a convaincu ce journaliste? Qu'est-ce qui lui a plu particulièrement?
Je pense qu'il a dû tomber amoureux de nos espaces naturels, de la nature sauvage de Belle-Île-en-Mer. Et puis, il y a une atmosphère sur l'île qui évoque le rêve, la poésie, la tranquillité. On n'attend pas une fréquentation supplémentaire, d'abord parce que ce n'est pas souhaitable de tendre vers un tourisme de masse. On ne va pas doubler les rotations de bateaux. Et puis, il y a beaucoup d'occasions de venir à Belle-Île en dehors des pics de fréquentation. Par exemple, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je suis sur le bateau, je suis en train de quitter Quiberon. Il y a un magnifique coucher de soleil sur une mer un peu houleuse et magnifique qui vient briser les rochers. Enfin voilà, il y a des multiples façons de découvrir notre île et en tout cas, ce havre de paix.
Et ça donne envie pour le week-end. Frédéric Legarce, le maire du Palais à Belle-Île-en-Mer, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock. On termine avec une page sport à 22h12 sur Europe 1. Et l'actualité est chargée en ce vendredi soir. D'abord, retour sur les podiums pour Martin Fourcade en biathlon. Le champion français renoue avec la victoire après plus d'un mois de disette. Il a remporté aujourd'hui le sprint d'Oberhof en Allemagne devant un autre Français, Émilien Jacquelin. Déception en revanche en handball. Les experts ont trébuché dès leur entrée en lice à l'Euro, défaite 28-25 inattendue face au Portugal. En revanche, l'équipe de France de volley décroche elle son billet pour les Jeux Olympiques. Hélène Kohl, les Bleus devaient battre l'Allemagne devant son propre public à Berlin pour se qualifier et ils l'ont fait sans coup férir.
Oui, la France s'est qualifiée à l'issue d'un match spectaculaire sur le terrain. Ce soir, on a vu la grande force physique et la grande force mentale de cette équipe. Pourtant, l'entraîneur des Bleus, Laurent Tilly, avait dit hier soir que son équipe était sans doute sur le papier celle qui était la plus bancale dans le dernier carré de ce tournoi. Mais la demi-finale contre la Slovénie hier soir, remportée à l'issue d'une remontada héroïque, a tout changé. Ils étaient menés 2-0 et puis ils ont repris l'ascendant psychologique. Et c'est ça qui leur a donné la force ce soir face à une Allemagne très puissante aussi dans le public, un public déchaîné, parfois hostile même à l'égard des Bleus, sans pitié en tout cas. Mais les Bleus, les volleyeurs de Laurent Tilly étaient plus forts, plus déterminés, plus sereins ici. Ils remportent le tournoi ici à Berlin et ils remportent le ticket pour Tokyo et les JO.
Et c'est le plus important. Merci beaucoup Hélène Kohl depuis la Max Schmeling Halle de Berlin. Enfin en football, je vous le disais, c'est le début de la 20e journée de Ligue 1 avec un joli rendez-vous en cours au Roazhon Park Stéphane Beignet. Marseille, 2e, se déplace à Rennes, 3e au classement. On en était à 0-0 tout à l'heure. Où en est-on?
Eh bien Théo, ça n'a pas évolué. 0-0 toujours, 62e minute dans cette partie âprement disputée. Et vous l'avez bien planté ce décor. On sent tout l'enjeu qui existe entre deux formations attirées par l'Europe, même si pour l'instant, eh bien, ce sont les Marseillais qui ont le ballon sur le côté droit avec Dimitri Payet qui va centrer un deuxième poteau. Il va récupérer maintenant là-bas ce ballon. Attention, mais Kamavinga là, qui se met en opposition. Il y a eu deux belles occasions dans cette partie. À la 20e, un coup franc de Payet et puis surtout la frappe d'Alvaro pour les Marseillais. Ça a été frappé le poteau de Mendy et puis un peu plus tard Del Castillo pour Rennes qui a centré pour Bourigeaud. La frappe instantanée et là Mandanda qui se détend sur sa gauche pour aller mettre et claquer le ballon en corner. Mais la possession de balle quand même est marseillaise dans cette partie, mais toujours 0-0 entre les deux formations.
Un match animé donc, allez, on gage qu'il y aura des buts. D'ici 22h30, on vous retrouve dans un quart d'heure. Stéphane Beignet, merci beaucoup depuis le Roazhon Park. 22h15, tout juste sur Europe 1, la météo avec vous Anissa. Et Anissa, le week-end commence avec un ciel bien gris hein, demain.
Oui, effectivement, c'est gris demain, Théo. Le ciel est chargé avec beaucoup de nuages, mais le temps reste sec sur tout le pays. Alors au sud, des Pyrénées au Languedoc, le long de la Méditerranée, en Corse et sur les Alpes. Et bien là, après la dissipation des brouillards dans les terres, le ciel reste dégagé et la journée sera bien ensoleillée au sud. En Bretagne et en Normandie, les nuages arrivent dans l'après-midi après une matinée assez lumineuse. Et il y a du vent également sur la Bretagne et la Normandie, du vent de sud-sud-ouest sur les côtes jusqu'à 60 km/h. Partout ailleurs, en région parisienne, dans le centre Val-de-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, sur le Nivernais, le Val-de-Saône, et bien là, après la dissipation des brumes et des brouillards le matin, la journée sera lumineuse dans l'après-midi avec de très belles éclaircies. Les températures, moins 3 à Manosque demain matin, 1 degré à Limoges, 4 pour Paris. Dans l'après-midi, nous aurons 5 à 16 degrés de Langres à Bastia, 10 pour Paris, 12 à Quimper.
Une prévision signée Anissa Haddadi. Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview éco d'Emmanuel Duteil, Christophe Catoire, président d'Adecco pour l'Europe du Nord. Les entreprises forment désormais elles-mêmes leurs futurs salariés en fonction de leurs besoins. On en parle avec lui, à tout de suite. 22h17 sur Europe 1, on fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Wall Street marque une pause ce soir après une série de records.
Oui, les indices reprennent leur souffle ce soir. Le Dow Jones perd 0,46%, 26 824 points. Le Nasdaq recule de 0,27% à 9 179 points. Quelques prises de bénéfices donc après une semaine de records malgré les tensions avec l'Iran. On a aussi une petite déception du côté du chômage américain. Les chiffres publié aujourd'hui montre que l'économie a créé moins d'emplois que prévu en décembre. Boeing perd encore 2%. L'image de l'avionneur est une nouvelle fois ternie par des révélations sur le B737 Max. Le groupe a publié des messages internes de ses salariés, messages très embarrassants et très critiques à propos de l'appareil toujours cloué au sol après deux crashs mortels. Amazon perd 0,9%. Le géant du e-commerce a annoncé la création de plus de 500 postes en France avec l'ouverture d'un centre de distribution à Senlis dans l'Oise en mai prochain. Et du côté des devises, l'euro gagne 0,14% et s'échange contre 1,1120$.
Le CAC 40 a terminé la semaine proche de l'équilibre.
Oui, une toute petite baisse ce soir pour le CAC 40 qui a longtemps tergiversé. L'indice perd finalement 0,09% à 6037 points. Le CAC qui est d'ailleurs resté quasi stable sur la semaine. Quatrième séance de progression pour Atos. Le titre de l'entreprise de services numériques monte de plus de 2% ce soir. Et puis Air France KLM continue de profiter du repli des cours du pétrole et gagne 0,7%.
La semaine claire se termine en baisse pour le titre Air. Airbus.
Moins 0,4% pour Airbus. L'avionneur européen a publié son bilan annuel ce soir. Il a livré 863 appareils précisément, c'est un record. Il a remporté 768 commandes nettes en 2019. Saint-Gobain perd 1,3%, pénalisé par une note de Barclays. La banque anticipe un quatrième trimestre plutôt faible pour le spécialiste des matériaux de construction. Séance sans grand mouvement pour les marchés en Europe. Londres 7,01%, Francfort et Milan sont stables. Madrid et Bruxelles, moins 0,1%. Amsterdam perd 0,3%. Et puis moins 0,1% pour le CAC 40 qui termine à 6037 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet. Claire Lemaître de boursier.com et bon week-end.
Bon week-end.
Il est bientôt 22h20 sur Europe 1 lors de l'interview éco avec vous Emmanuel Duteil et avec vous ce soir Christophe Catoire, président pour l'Europe du Nord du groupe de formation Adecco. Bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe Catoire. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président Europe du Nord d'Adecco, hein, bien évidemment l'un des grands noms dans le monde de l'intérim. Si j'ai eu envie de vous inviter ce soir, pour être très honnête, c'est parce que j'ai lu une interview très intéressante de vous dans le journal Les Échos ce matin, où on y apprend que plus de 50% des postes à pourvoir ne sont pas pourvus et que les entreprises ont un mal fou à recruter. Comment c'est possible qu'un emploi sur deux ne trouve pas preneur ?
La situation, malheureusement, elle est celle que vous citez, c'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui vont chercher des profils avec une certaine qualification, parfois d'ailleurs un cahier des charges parfois trop pointu en termes d'expérience professionnelle, et de l'autre côté, on va trouver des candidats à qui on a diffusé beaucoup de savoir dans l'éducation initiale, mais qui n'ont pas toujours la connaissance des métiers, et donc au final, les deux mondes ont du mal à se rencontrer.
On en revient toujours au même, c'est un problème de formation.
Il y a deux problèmes en réalité. Il y a un problème de formation d'un côté qui n'est pas forcément orienté vers les besoins des entreprises. Et de l'autre côté, vous avez probablement des entreprises qui doivent réformer leur façon de recruter pour aller d'un recrutement traditionnel qui était sur vous avez un diplôme, vous avez une expérience professionnelle, à probablement vous avez une motivation, vous avez un potentiel, on va vous former.
Ça, vous sentez les entreprises françaises prêtes à le faire ?
En fait, elles n'ont pas le choix en réalité maintenant. C'est, comme vous l'avez évoqué, 50% de postes pour lesquels on a des difficultés de recrutement, ça signifie autant de croissance en moins pour les entreprises. Et clairement aujourd'hui, les entreprises, notamment par le fait des nouvelles lois qui ont autorisé à la création de CFA, voient la possibilité d'avoir un outil qui leur est propre et qui leur permet d'investir un peu plus, c'est sûr, mais d'investir sur leurs besoins et pas à côté de leurs besoins.
Et d'une certaine manière, avec ces centres de formation des apprentis, Christophe Catoire, les entreprises vont véritablement former les salariés aux métiers dont elles ont réellement besoin.
En fait, c'est probablement, on parlera plutôt d'ajustement des compétences. Il y a une formation initiale, elle est ce qu'elle est, elle appartient bien évidemment au gouvernement. Ensuite, il est clair que les métiers évoluent très vite. Et on voit bien que les seuls à pouvoir suivre le rythme de changement des métiers, ce sont les entreprises. Et donc, elles prennent une responsabilité beaucoup plus importante à la fois dans la formation continue, c'est-à-dire des petits ajustements réguliers. Et puis, de temps en temps, quand une filière métier s'éteint, et ça arrive dans un certain nombre de métiers qui s'automatisent notamment, il y a une obligation de former à des nouveaux métiers et de faire un rafraîchissement de compétences, ce qui n'était pas le cas dans la génération d'avant où on pouvait vivre toute une carrière professionnelle avec une qualification ou un diplôme. Et ça,
vous,
c'est nouveau.
Vous, typiquement, avec d'autres entreprises, vous venez de lancer un centre de formation des apprentis. Je crois que les premières formations vont avoir lieu dès le mois de mars. C'est lancé avec Accor, avec Sodexo dans la restauration collective, avec Korian, là, on est du côté des maisons de retraite. De façon très concrète, qu'est-ce que vous allez faire de nouveau par rapport à ce qui existe aujourd'hui ?
En fait, on va former plus de gens. L'an passé, nos quatre entreprises, ont recruté 11 000 personnes sur ces métiers-là. Nous avions 15 000 besoins répertoriés. Globalement, avec ce CFA, dès l'année 2020, nous allons former 1 000 personnes de plus et donc recruter 1 000 personnes de plus. Ce ne sera pas suffisant. Mais c'est un premier bénéfice par rapport à la situation que l'on avait en 2019.
Mais c'est quand même paradoxal aujourd'hui que ce soit aux entreprises de créer elles-mêmes leurs écoles, si on caricature un peu. Ça montre quand même que la formation, malgré toutes les lois et encore la dernière loi qui vient d'être passée, n'est pas au niveau. Ça ne va pas assez vite.
Alors, il y a deux choses. En réalité, le premier problème, c'est l'orientation professionnelle. On ne dit pas aux jeunes les métiers qu'ils vont recruter demain. Et on a quelque part une orientation des jeunes qui est un peu aveugle des tendances de marché et qui ne voit pas toujours les évolutions que les entreprises vivent dans leur quotidien. C'est vraiment le premier élément. Et le deuxième élément, je pense que la loi, au contraire, donne la possibilité aux entreprises de saisir de leurs responsabilités, qui est quand elles ont des besoins qui évoluent, de ne pas compter que sur l'éducation initiale, parce qu'encore une fois, c'est aussi une question de formation continue. Et cette loi, un, avec le compte personnel de formation pour les individus, et deux, avec les CFA pour que les entreprises se donnent un outil de fabrication de la formation, quelque part, ça vient résoudre une partie du problème. L'orientation est probablement le problème suivant qu'il faudra résoudre, même si les régions commencent à s'en saisir.
Est-ce que c'est un paradoxe purement français d'avoir un taux de chômage élevé, environ 9% de la population, et avoir une entreprise sur deux qui a besoin de recruter, qui n'arrive pas à trouver le bon profil?
Alors disons-le, les difficultés de recrutement existent également dans d'autres pays. Par exemple, on a fait une étude qui montre qu'en France, le deuxième métier en termes de difficultés de recrutement est celui de chauffeur poids lourd. C'est la première pénurie mondiale également. Ceci étant, la grande différence de la France, c'est que par rapport à l'Europe du Nord, il faut trouver un chômage de 2 à 3% pour avoir des difficultés aussi importantes dans des pays comme les Pays-Bas, la Finlande, la Suède ou même l'Allemagne. En France, à 8,6% de chômage, on avait déjà des difficultés de recrutement structurelles. Mmh. Et ça, c'est la particularité de la France.
Je rappelle que vous êtes le patron Europe du Nord d'Adecco, l'un des grands noms de l'intérim dans le monde. Est-ce que l'intérim est en ce moment impacté par le conflit sur les retraites qui bloque l'activité économique dans certains secteurs ?
Alors, certains secteurs sont effectivement concernés. Alors, disons-le également, l'Île-de-France est la plus concernée en termes de géographie. Et après, on va trouver les métiers de l'hôtellerie-restauration qui, effectivement, sont les premiers à payer le tribut de ce qui se passe en ce moment, et les métiers de l'événementiel. D'autres le sont, mais plus à la marge. Ceux-là sont vraiment fortement impactés.
Justement, sur cette réforme des retraites, vous qui êtes un spécialiste du monde de l'emploi, du monde du travail, il y a quand même une question importante, puisqu'on va de plus en plus réfléchir à l'employabilité des seniors avec cette réforme des retraites. Mais on sait que bien souvent, les entreprises ne veulent pas garder ces personnes qui sont au-dessus des 55 ans, on va dire.
Oui, alors c'est un vrai changement de comportement qui va être attendu de la part des entreprises. Et là, on remet le doigt sur le
sujet
qu'on évoque
depuis... Mais là, c'est à elle de faire un véritable effort quand même.
Tout à fait. Et maintenant, les entreprises qui se plaignent de ne pas trouver de candidats vont devoir changer leur comportement dans la façon de recruter. C'est pour ça qu'on a créé également dans le groupe Adecco un CFA recrutement pour changer les méthodes de recrutement. Et deuxième élément, le regard porté sur des gens qui avaient des compétences importantes. Il va falloir continuer à investir sur la formation des gens de plus de 45 ans, puisqu'un senior en France est plus de 45 ans, là où les investissements en formation étaient essentiellement centrés sur les cadres et les moins de 30 ans. C'est un vrai changement de comportement.
Et bien en tout cas, un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Christophe Catoire, le président Europe du Nord d'Adecco, était avec nous. On se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Et d'ici là, on retrouve toutes vos interviews en intégralité sur notre site europe1.fr. Bon week-end à vous. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos quotidiens demain matin, crash du Boeing ukrainien, l'Iran au cœur du soupçon, titre Le Figaro, qui revient sur les accusations lancées par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Tous leurs services de renseignement assurent que l'avion d'Ukraine Airlines a probablement été abattu par un missile iranien. Téhéran continue de démentir toute responsabilité, mais des vidéos semblent bien accréditer cette thèse. C'est un jeu bien dangereux qui se joue dans la région, écrit Philippe Gély dans son éditorial. Que font les CHU avec l'argent des laboratoires? La question est à la une de West France demain. Le scandale du Mediator, actuellement en procès, avait révélé le manque de transparence des liens entre industriels de la santé et professions médicales, rappelle le quotidien régional, qui a enquêté pour voir où on en est 9 ans après l'adoption de la loi Bertrand qui devait lutter contre ces dérives. Et ce thème concerne apparemment la France entière et semble la toucher de part en part, puisqu'on le retrouve également à la une du Dauphiné Libéré ou encore dans les colonnes du journal L'Alsace. Le corps médical infecté par les conflits d'intérêts, c'est même le thème de son éditorial. La manière dont est appliquée cette loi Bertrand de 2011 laisse pantois, écrit le quotidien alsacien, qui pointe oubli, erreur et approximation dans les déclarations. Ils sont si nombreux qu'il est impossible de se faire une idée précise des relations entre les deux mondes. Le plus grave dans cette histoire, conclut le journal, c'est que l'État n'a finalement guère la volonté de mettre fin à un système dont il s'accommode parfaitement. Enfin, Paris, un boulevard pour Hidalgo, à retrouver dans Libération. Le quotidien se penche sur la bataille des municipales dans la capitale. La maire sortante socialiste doit officialiser sa candidature ce week-end. Peut-elle perdre, se demande Libé. Elle est ultra favorite, créditée de 19 à 24% dans les sondages. Face à des adversaires éparpillés, détail Libé. Et puis les cartes de fidélité aux bancs d'essai, ça c'est à lire dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Quasiment tous les foyers français en possèdent au moins une. Mais que valent-elles ces cartes de fidélité? Qu'offrent-elles? Laquelle correspond le mieux à votre profil? Eh bien, si vous voulez le savoir, c'est un comparatif, un dossier complet à lire dans les colonnes d'Aujourd'hui en France. Avant de rendre l'antenne à Olivier Delacroix, un dernier détour par le Roazhon Park, Rennes-Marseille. Le troisième accueille le second de Ligue 1, 0-0. Il y a un quart d'heure quand on s'était parlé, Stéphane Beignet, est-ce que le score a été débloqué?
Alors on aimerait bien vous dire qu'il y a des buts au Roazhon Park, mais non, toujours 0-0. 78 minutes dans cette partie vraiment âprement est ardemment disputé entre ces deux formations qui ont bien ce souhait de prendre des points, mais surtout peut-être de ne pas perdre. Donc, ce qui fait que le jeu est peut-être moins flamboyant, mais c'est une véritable rencontre quand même un peu musclée entre les deux formations. On a eu des occasions et depuis notre dernière intervention, on a eu pour les Rennais une frappe de Rafinha de 25 mètres. C'est passé juste à côté des buts de Mandanda. C'était à la 62e minute. À la 68e, la frappe de Dimitri Payet pour Marseille et l'arrêt de Mendy. Et à la 72e, eh bien, nouvelle action et occasion rennaise avec une balle en profondeur. C'était pour Rafinha et Mandanda qui a réussi à arriver le premier sur le ballon pour dégager cette balle. Mais il y avait vraiment danger pour la formation marseillaise. Mais pour l'instant, toujours 0-0 dans cette partie. Nouveau carton jaune parce que les Rennais musclent un peu leur jeu. Là, il y avait une faute aussi sur Valère Germain. Valère Germain qui est entré en jeu, tout comme Maxime Lopez pour la formation marseillaise. 0-0, 79e minute dans cette partie au Roazhon Park.
Merci beaucoup Stéphane Beignet. Il est 22h30 sur Europe 1. Vous avez bien rendez-vous avec la Libre Antenne, mais c'est Sabine Marin qui s'installe en ce vendredi soir. Où avais-je la tête ? Bonsoir Sabine.
Bonsoir Théo. Même si je prends une grosse voix, je pense que j'aurai beaucoup de mal à faire passer pour Olivier.
Mais on est tout aussi bien avec vous. On est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Et nous, on se retrouve dans une demi-heure pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.